À la veille des élections, vous le savez, en juin prochain, nous allons aller dans les bureaux de vote. Eh bien, les partis politiques s'emparent d'un nouveau dossier, celui du financement des cultes. Alors, qu'est-ce que cela va signifier pour la pratique de son culte et du paysage des religions en Belgique? On en a parlé. Blaise van der Linden, Lucie Gilson, en a parlé avec Caroline Sagesser, historienne au CRISP, spécialiste des cultes en Belgique.
Bonjour, Caroline Sagesser.
Bonjour.
Vous êtes historienne au CRISP, spécialiste des cultes et de la laïcité, de l'histoire politique et du fonctionnement des institutions belges. Les partis belges se penchent sur une réforme en ce moment du financement des cultes reconnus qui se situe à une hauteur de 280 millions d'euros. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste aujourd'hui le système de financement des cultes en Belgique et comment cela a un impact sur la possibilité de pratiquer sa religion?
Alors, je crois qu'il nous faudrait une bonne heure si je devais vous expliquer tout ça en détail. Donc, on va retenir les grands principes. C'est un système qui est hérité de l'époque de Napoléon. C'est un système où l'État fédéral reconnaît un certain nombre de cultes. Donc, actuellement, c'est le catholicisme, le protestantisme, l'anglicanisme, le judaïsme, le christianisme orthodoxe et l'islam. Et à côté de ça aussi, une organisation philosophique non confessionnelle. C'est ce qu'on appelle la laïcité organisée. Alors, une fois qu'on est reconnu, on a droit à plein de choses, mais essentiellement, on a droit à voir le salaire de ses ministres des cultes être payé par l'État fédéral, et on a droit à des interventions financières pour les implantations locales, donc les églises, les temples, les synagogues, qui sont financées soit par la commune, soit par la région, parce qu'il y a des dispositions régionales différentes en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, et même en communauté germanophone. On est en Belgique, après tout, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, est-ce que ça a un impact vraiment sur la liberté de pratiquer son culte, me disiez-vous? Un peu l'idée, c'est de permettre à chacun, quel que soit son niveau de fortune, d'avoir un endroit convenable, digne, pour pratiquer son culte. Et ça permet aussi d'un peu limiter, je dirais, les disparités entre, je vais prendre deux exemples, au niveau du culte islamique, ce sont des fidèles dont les moyens financiers sont moins élevés que les fidèles d'autres cultes qui sont présents en Belgique depuis le 19e siècle. Donc l'État, les pouvoirs publics peuvent effectivement donner un coup de pouce. Et par ailleurs, moi je suis toujours très frappée de voir qu'en Belgique, le clergé catholique a une attitude beaucoup plus ouverte et beaucoup plus prologue en France. Et je crois que ça vient au moins en partie du fait qu'il reçoit des moyens financiers de l'État et que donc il n'a pas intérêt à se rapprocher des citoyens les plus fortunés, de la haute bourgeoisie, de gens qui ont des convictions peut-être plus conservatrices, pour obtenir son financement. Il ne doit pas se soucier de plaire pour recevoir de l'argent, et je crois que c'est aussi un avantage de notre système.
Donc, quels sont les principaux motifs invoqués par les différents partis politiques pour justifier la nécessité de cette réforme? À votre avis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de réformer aujourd'hui?
Oui, c'est tout à fait nécessaire. Il y a de bons motifs de changer le système, et il y en a de moins bons. Alors, le bon motif, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a condamné la Belgique en avril 2022, précisément parce que notre système de reconnaissance et de financement des cultes n'est pas transparent, démocratique et égalitaire. En clair, il n'y a pas de loi qui indique quels critères il faut rencontrer pour être reconnu. Il n'y a pas non plus de procédure claire pour obtenir cette reconnaissance. C'est un peu le fait du prince, c'est le ministre de la Justice qui décide ou non de pousser un dossier à la Chambre. Et il n'y a pas non plus de critères pour déterminer combien chaque culte reconnu doit recevoir. Donc tout ça, à mon avis, impose une modernisation. On vit encore sur un système, comme je le disais d'entrée de jeu, qui est hérité de Napoléon. Maintenant, il y a peut-être aussi des motifs moins bons, on ne va pas dire qu'ils sont franchement mauvais, mais ils sont sans doute moins bons. Peut-être que, effectivement, les partis politiques ont envie de transférer cette compétence de financement des cultes en même temps que d'autres compétences liées, par exemple, à la justice, aux régions. Dans la perspective d'une nouvelle réforme de l'État, il est possible que des formations politiques, particulièrement au nord du pays, aient envie de rapatrier l'ensemble des compétences au niveau régional. C'est vrai qu'actuellement, il y a parfois une articulation un peu compliquée entre le niveau fédéral et le niveau régional dans cette matière.
Alors, vous l'avez évoqué, cet impact du politique finalement sur la pratique des cultes. Par le passé, il y a eu un fort impact des politiques publiques, des gouvernements sur la manière dont on pratique les cultes en Belgique. Je pense notamment à l'ancien ministre de la Justice, Van Quickenborg, qui est aujourd'hui accusé d'avoir laissé entrer les mouvances islamistes les plus radicales. Est-ce possible que les élections prochaines influent soit sur la décision de réformer ce financement, soit sur le financement en général des cultes en lui-même, et quels pourraient être ses impacts?
Alors, pendant longtemps, on a eu en Belgique un courant laïque important, avec des relais politiques qui souhaitaient changer le système pour le faire ressembler davantage, sans financement direct des cultes. Je crois qu'actuellement, ce n'est plus vraiment ce qui est à l'agenda politique, et je pense que c'est plutôt l'idée, et particulièrement à la flanque, plus de compétences en la matière. S'agissant maintenant du dossier infiniment délicat du culte islamique, depuis la reconnaissance de l'islam en 1974, on a en fait multiplié les erreurs dans ce dossier en choisissant d'abord un interlocuteur qui ne correspondait pas du tout à l'islam de Belgique. Donc on essaye un peu de rattraper les choses, de rattraper la sauce depuis une dizaine d'années, mais c'est très compliqué à mettre en place.
Et donc, plus concrètement, cette réforme, de quoi s'agit-il? Quelles pourraient être les implications économiques, sociales et politiques?
Alors, comme on ne connaît pas du tout les contours de la réforme, c'est difficile à dire. Je ne crois effectivement pas qu'une majorité pourrait se dégager pour mettre fin au financement public ou pour le réduire drastiquement. Donc, j'imagine davantage un système plus transparent, avec des critères de reconnaissance à rencontrer et avec aussi des critères de répartition des montants. Maintenant, il y a plusieurs partis politiques du côté des libéraux, du côté des Verts, qui sont assez séduits par la formule de l'impôt philosophiquement dédié, c'est-à-dire une formule où ce n'est plus l'État qui décide d'octroyer des financements au culte, mais le citoyen décide à quelle communauté religieuse il est affecté d'impôts. L'avantage, évidemment, en cela que ça fournit une clé de répartition évidente, ça respecte la liberté, je dirais, philosophique et religieuse de chacun. Par contre, ça ne permet pas forcément de bien rencontrer les besoins des cultes. Vous pouvez avoir des cultes qui ont suffisamment d'argent et qui en reçoivent encore plus, et d'autres qui sont peu fortunés et qui n'en reçoivent pas beaucoup parce que les contribuables qui fréquentent ces lieux de culte eux-mêmes ne sont pas très fortunés. Donc, ça, de ce point de vue-là, ça a aussi un inconvénient, tout comme au niveau du respect de la confidentialité des données. Imaginez qu'on puisse au ministère des Finances sortir un listing de tous les musulmans de Bruxelles ou de tous les juifs de Bruxelles. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder.
Donc, ce que j'entends, c'est que en fait, ce serait une manière d'individualiser finalement la prise en charge de son propre culte, en fait.
Oui, c'est effectivement l'argument mis en avant par les partisans de cet impôt.
Et donc, ma dernière question, en effet, vous l'avez évoqué que en Belgique, il y a 6 cultes qui sont officiellement reconnus, et les 6 ont récemment demandé à ce que leur religion soit également reconnue. En quoi cela peut-il impacter le paysage des religions en Belgique?
Alors, ils ne sont pas les seuls. Vous avez aussi des demandes des hindouistes, vous en avez des arméniens, de d'autres communautés de chrétiens orientaux qui sont arrivés en nombre chez nous après la guerre en Syrie. Donc, en fait, c'est un autre inconvénient de notre système qui a vraiment été pensé pour l'Église catholique, c'est d'imposer une pilarisation des communautés religieuses alors que les autres religions que le catholicisme sont beaucoup plus diversifiées et n'ont pas cette hiérarchie cléricale qui permet à l'État d'avoir un seul interlocuteur. Donc je crois que c'est un autre élément qui va peser pour aller vers un modèle beaucoup plus éclaté, où on peut imaginer par exemple une reconnaissance différente du judaïsme libéral et du judaïsme orthodoxe, parce que c'est difficile pour leurs représentants de s'entendre ensemble dans une structure unique. On peut imaginer aussi une reconnaissance différente pour les chiites ou pour les alévis, parce que des religions qui sont beaucoup en leur sein que ne l'est le catholicisme.
Caroline Sagesser, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes historienne au CRISP, spécialiste des cultes et de la laïcité. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous éclairer sur cette question et bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir.